BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat depuis les rencontres de Roissy-Meaux Aéropole, le nouveau grand rendez-vous de la décarbonation des transports, des grands patrons, des politiques réunis ici toute la journée pour phosphorer, pour avancer sur le sujet. On va parler d'hydrogène, on va parler des nouvelles énergies et des mobilités vertes, comment décarboner les transports, comment accélérer les transitions et puis comment adapter tout ce secteur au changement climatique. On en parle aujourd'hui avec trois invités de marque dans BFM Climat. Bonjour Nathalie Stubler.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du développement durable du groupe Safran. À vos côtés, Edouard Dockwright, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général exécutif du groupe ADP. Et avec nous, Philippe Boucli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes le président de France Hydrogène. Merci donc à tous les trois d'être sur ce plateau de BFM Climat, ici, depuis les rencontres de Roissy-Meaux Aéropole. On va voir avec vous où est-ce qu'on en est de la décarbonation du secteur, parce que les enjeux, évidemment, sont fondamentaux. L'aérien, ça pèse en moyenne 2,5% des émissions mondiales de CO2, et puis c'est aussi un sujet qui est régulièrement pointé du doigt dans la transition climatique pour des raisons écologiques mais aussi sociales. Je commence avec vous, Edouard Dockwright. Chez ADP, très concrètement, quelle est votre feuille de route climatique, vos objectifs climatiques que vous êtes fixés et où est-ce que vous en êtes?
Alors, on a une feuille de route qui est conforme aux accords de Paris, puisqu'on vient d'être, elle vient d'être certifiée par le SBTi, donc d'accord, l'organisme qui vérifie cette conformité. Le principal enjeu pour nous, c'est de supprimer les émissions de gaz à effet de serre au sol. Notre métier, c'est le sol, permettre aux avions de décoller et d'atterrir, et donc les opérations au sol. Donc ça passe par d'abord l'accès le moins carboné possible, donc le plus par transport collectif.
D'accord, se rendre à l'aéroport.
L'aéroport Charles de Gaulle, son cœur aujourd'hui, c'est l'accès routier. Son cœur demain, ça sera la gare TGV de CDG2, qui sera également la gare de la ligne 17, du Roissy Picardie, du
Charles de Gaulle Express, ça ?
Et du Charles de Gaulle Express.
D'accord, le fameux.
Voilà, le fameux.
C'est pour quand, ça, d'ailleurs ?
Le Charles de Gaulle Express, 28 mars 2027.
Ah, c'est précis. Ok.
Mais tout ça commence, puisque à Orly, depuis cet été, depuis le 24 juin, vous avez la ligne 14, et on en a vu les effets immédiatement. Deux mois de ligne 14, c'est 300 000 véhicules en moins sur la plateforme d'Orly.
Ah oui.
Et c'est 850 000 sur un total de, c'est à peu près 10% des véhicules qui ont disparu.
Ah oui, okay, effectivement.
Et vous avez 850 000 passagers rien qu'en juillet et au mois d'août qui ont utilisé la ligne 14.
La 14
et je vous ai dit passagers, mais c'est également des salariés et c'est des voyageurs du quotidien, de tous ceux qui habitent à côté de la plateforme.
Ouais.
Voilà, donc l'accès, c'est le premier combat. Ouais. Et le deuxième, c'est toutes les opérations au sol autour
l'accès,
de l'avion.
L'accès, pardon, vous avez, parce que vous avez votre bilan carbone, c'est combien des émissions, vos émissions à vous?
L'accès, c'est à peu près 30% des émissions de CO2.
Donc
sur les émissions au sol.
Okay.
Donc, pour avoir un aéroport décarboné, il faut d'abord éradiquer cette première source.
Okay.
La deuxième, c'est les opérations autour de l'avion. Comment électrifier toutes ces opérations? On sait que c'est possible, on l'a montré au Bourget l'année dernière, on le montrera à Charles de Gaulle cette année. Ça a des conséquences en termes de besoin d'électricité. Pour vous donner un exemple, c'est 300 millions d'euros de besoin d'investissement sur la seule plateforme Charles de Gaulle pour l'électrification de toutes ces opérations dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est des enjeux qui sont nouveaux pour nous.
Ouais.
On est passé dans un monde dans lequel l'aéroport est un hub multi-transport et multi-énergie.
Électrifier l'aéroport, pour qu'on comprenne bien, c'est toutes les navettes qui opèrent dessus, c'est les camions, les fourgonnettes, c'est ça?
Ça, c'est les mobilités au sol, c'est assez facile et ça a déjà commencé. Les assistants en escale font un très gros travail pour pouvoir passer de modes de transport carboné à des modes de transport électrique avec une électricité la plus verte possible, bien sûr. Mais c'est également le fait de pouvoir permettre à l'avion de se brancher au sol. Et donc de ne pas utiliser son moteur pour sa climatisation et son chauffage lorsqu'il est au sol.
D'accord.
C'est le fait de pouvoir utiliser des engins propulsés électriques pour pouvoir déplacer l'avion. Et là encore, supprimer l'utilisation du moteur.
Ah oui.
Donc c'est ce qu'on appelle la touchée. Et la totalité des opérations autour de l'avion peuvent être électrifiées. C'est désormais un problème davantage de modèle économique que de modèle industriel.
Et vous me disiez, parce qu'après on va parler des avions qui roulent sur ces aéroports, vous voulez être neutre en carbone, zéro émission nette en 2030, c'est ça à Orly, et 2035 à Roissy.
Exactement.
Alors, c'est 2030 faisable, à Orly, ça paraît très ambitieux.
C'est très ambitieux et Orly est un démonstrateur.
Mais c'est crédible, vous pouvez tenir ces dates.
C'est d'autant plus crédible que désormais le SBTi nous dit que c'est possible.
Okay.
Donc c'est pas nous qui le disons, mais c'est vraiment l'organisme de référence international. Mais on l'a vu à Orly et on le voit, juste un seul exemple, je vous ai cité la 14, mais vous pouvez également prendre le N-1 moteur, c'est-à-dire la plupart des compagnies aériennes désormais à Orly éteignent un des deux moteurs, si je suis un peu trivial. Vous pouvez le trouver sur l'énergie qu'on utilise. 25% de l'énergie de l'aéroport d'Orly vient de la chaleur fatale du mine de Rungis. 10% de l'électricité de l'ensemble des plateformes parisiennes viennent des plateformes, des centrales photovoltaïques dans le Var, dans le Gard et dans les Charentes avec lesquelles nous avons signé des contrats. Donc, nous lançons les travaux de la géothermie à Charles de Gaulle. Donc, on prend toutes les composantes et aujourd'hui, on les travaille toutes avec, bien sûr, en perspective l'hydrogène.
Bon. Et on va en parler évidemment dans un instant avec Philippe Boucli. Nathalie Stubler, maintenant qu'on a parlé des aéroports, vos avions à vous, enfin en tout cas tous les équipements que vous fournissez, à commencer par les moteurs, c'est quoi la feuille de route climatique de votre entreprise?
Alors, Safran a un plan climat, effectivement, en ligne avec les accords de Paris. D'abord, nous sommes nous-mêmes un industriel, donc on fait en sorte que nos usines, nos procédés réduisent leurs émissions. Hein. La cible est de moins 50% à l'horizon 2030.
D'accord.
Mais l'enjeu le plus fort, c'est effectivement sur les produits que nous vendons, donc évidemment les moteurs, les trains d'atterrissage, les sièges et un certain nombre d'équipements à bord de nos avions. Et là-dessus aussi, nous nous sommes engagés. Nous aussi, on a une cible qui a été validée par cette fameuse initiative Science Based Target, à moins 42,5%, c'est très précis, à l'horizon 2035, lorsqu'on se compare à 2018, et ça s'exprime en intensité, donc en grammes de CO2 par siège kilomètre.
D'accord.
Alors, la feuille de route pour y arriver, voilà. Comment on va mettre ça en œuvre? D'abord, la technologie sur nos avions. Et c'est d'ailleurs un élément important aujourd'hui, le renouvellement de flotte est le premier levier de décarbonation. Vous investissez en tant que compagnie aérienne vers des avions plus modernes.
Ouais.
Alors aujourd'hui, Safran propose un moteur qui s'appelle le LEAP, qui permet déjà 15 à 20% de réduction d'émissions de CO2 par rapport à la génération précédente. Et on travaille sur la suite de ce moteur. Alors, on a un programme qui s'appelle RISE. Mmh. Et là, on vise encore moins 20%.
D'accord.
Après ces premiers 20%.
Ouais.
On travaille également sur d'autres aspects.
Et pardon, ce moteur, il doit sortir quand?
Alors, ce moteur, pour l'instant, c'est un démonstrateur qui a été testé à l'ONERA, à échelle réduite. Et bien sûr, ce moteur, ce programme, fait partie de discussions avec les avionneurs, parce que c'est eux qui vont décider effectivement, ils équipent leurs futurs avions avec RISE.
Mais il n'y a pas une échéance donc qui est fixée de se dire, je sais pas, ce moteur en 2030 ou enfin.
Là-dessus, ça sera post 2035 sur nouvelle génération des avions qui vont sortir après l'Airbus Neo et puis on espère aussi du côté de Boeing. Donc ça c'est la première
le
moteur, mais également on travaille sur d'autres briques technologiques. D'abord réduire la masse à bord des avions, parce que dès qu'on a besoin de masse, on a besoin de plus de carburant et plus de carburant.
C'est donc alléger les avions.
Alléger les avions, soit par des procédés de fabrication, soit par des matériaux innovants, et également par de l'hybridation. Si on peut aussi hybrider un certain nombre de commandes, un peu plus d'électrification à bord des avions, et ça va aussi permettre d'alléger la masse des avions. Donc ça, c'est toute une feuille de route technologique qui va nous permettre de réduire les émissions de CO2. Il y a un deuxième axe à ces travaux, qui sont les carburants d'aviation durable. Ça, c'est aussi clé. Donc, Safran, en tant que motoriste, va s'assurer que ces matériels, que ce soit jauge carburant ou bien moteur, bien sûr, peuvent être compatibles jusqu'à 100%. Alors, aujourd'hui, les moteurs sont déjà certifiés à hauteur de 50% d'incorporation de ces carburants, mais on va s'assurer que...
On en est loin, aujourd'hui, c'est pas du tout ça.
On en est loin, mais déjà, la certification va nous permettre...
Ouais, vous pouvez le permettre.
Va nous permettre d'aller bien au-delà. On va aussi regarder l'impact... Non seulement sur notre matériel, mais on a aussi des travaux de recherche pour regarder l'impact de ces carburants dans l'environnement. C'est-à-dire regarder les effets sur les traînées de condensation derrière les avions, ce qu'on appelle les effets hors CO2. Sur les carburants d'aviation durable, on va aussi investir dans des briques technologiques. Safran investit entre autres dans une start-up qui s'appelle Ineratech, qui est une brique technologique qui va permettre de fabriquer du e-kérosène, du e-SAF.
Ça, c'est les carburants de synthèse.
Exactement.
Okay.
Et puis, on incorpore aussi du carburant d'aviation durable dans nos bancs d'essai moteurs. Parce qu'avant de livrer un moteur à un client, on le teste nombreuses heures. Et donc, aujourd'hui, l'an dernier, on a déjà incorporé 20% de carburant d'aviation durable dans nos bancs d'essai.
Okay.
Et on va aller jusqu'à 35%. C'est la cible qu'on s'est donnée en 2025.
Ok. Bon, les objectifs sont très clairs. Et alors, au milieu de tout ça, Philippe Boucli, l'hydrogène. Pour qu'on se représente, parce que autant tout ce qui est électrique, on le voit de plus en plus dans nos usages au quotidien, autant l'hydrogène est un peu moins rentré dans notre quotidien. À quoi doit servir et va servir l'hydrogène dans l'aérien ?
Dans l'aérien, Nathalie et Edouard l'ont dit, dans l'aérien, c'est donc décarboné avec des solutions soit moyen courrier, soit long courrier, hydrogène pour les moyens courriers, c'est ce qui a l'air de se dégager, et des carburants de synthèse pour le long courrier.
Donc ça va servir pour
et
les
carburants. Et puis l'hydrogène à terre, ça c'est ce qu'a dit Ardo.
Oui, alors on va reprendre. Déjà pour les avions eux-mêmes, vous dites qu'on va faire du moyen courrier avec des avions à hydrogène.
C'est ce que Airbus dit. C'est-à-dire pour des. La question de l'hydrogène, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc, ouais. Prend beaucoup plus de place que du kérosène. Donc, pour le moyen courrier, ça semble envisageable. Pour le long courrier, ça
moyen semble courrier, moins.
Et c'est pour ça que Nathalie parlait des carburants de synthèse.
Moyen courrier, c'est du vol continental, par exemple. C'est pour se déplacer en Europe.
C'est l'ordre de 1200, 1500 km.
D'accord. Donc c'est ça le marché de l'aérien hydrogène. On se dirige vers ça.
C'est ce qui semble se dégager, oui.
Et à quelle échéance ?
Airbus nous dit qu'à 2025-26, ils auront des concepts.
Ah, des concepts.
Des concepts, ouais. Et les premiers avions les premiers avions à hydrogène vers 2026-27 également.
D'accord. Et ça, alors après, donc ce type de vol, ça représente combien du marché ? C'est-à-dire, si on prend tous les vols aujourd'hui qui existent, l'hydrogène, ça représenterait quelle part des vols quelle part du trafic aérien ?
J'ai pas le chiffre en tête. Ce que disait Henri Gaille tout à l'heure à la tribune, ouais. C'est que Air France met l'accent sur les longs courriers et c'est 80% de ses émissions.
D'accord.
Donc, bon. Ce que je veux dire, c'est que les moyens courriers, c'est une part beaucoup plus faible.
Oui. Et alors, vous parliez effectivement d'ADP. L'an dernier, vous aviez annoncé créer une co-entreprise avec Air Liquide, évidemment très investi sur le sujet de l'hydrogène, pour embarquer l'hydrogène dans les infrastructures aéroportuaires. Où est-ce que vous en êtes un an plus tard ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'aéroports qui sont intéressés par ça ? Est-ce que c'est encore un peu tôt ? Comment ça se passe ?
Alors, on ne peut pas imaginer une aviation dans laquelle l'hydrogène pourrait prendre une part, et Philippe Boucli a bien évoqué, une part sur un segment, le moyen courrier, et une partie de ce moyen courrier, c'est ce sur quoi les avionneurs travaillent sous le contrôle des motoristes représentés à côté de moi. On ne peut pas l'imaginer si vous n'avez pas tout un réseau d'aéroports dans le monde. Donc, on a identifié environ 200 aéroports qui sont susceptibles d'accueillir cet avion moyen courrier hydrogène.
Ouais.
Donc, la première question, c'est d'abord les identifier. La deuxième chose, c'est une fois qu'on les a identifiés, de quoi on a besoin sur place ? On a besoin de foncier. Est-ce que cet hydrogène, on va l'accueillir et on va le mettre à disposition ? Ou est-ce qu'on va le produire ? Et si on l'accueille, il faut le transformer pour le rendre compatible avec l'usage de l'aérien. Et si on doit le produire, bah, ça demande des infrastructures. Par exemple, à Roissy, on a identifié 20 hectares qui sont gelés dans notre planification à long terme. En disant, le jour où on en a besoin, c'est là qu'on mettra l'infrastructure nécessaire.
Okay.
Pour pouvoir transformer ou fabriquer, il faut de l'électricité. Donc ça veut dire discuter avec, en l'occurrence en France, RTE, sur la puissance électrique pour desservir un aéroport. Et si jamais il s'agit juste de le transformer, il faut quand même qu'il soit arrivé. Généralement, il arrive en pipe. Et là, c'est discuter avec GRT Gaz en France. On avait annoncé ici à Meaux l'année dernière un partenariat avec GRT Gaz et on livrera le résultat de ces études qui montrent en fait que on a à peu près tout sur la table aujourd'hui pour pouvoir mettre cet hydrogène liquide jusqu'à l'aéroport avec les tuyaux qui existent, modulo quelques aménagements.
D'accord.
Voilà, donc c'est ça le travail des aéroports et c'est ça le travail d'études que nous faisons avec Air Liquide en lien avec Airbus qui est évidemment le partenaire principal.
D'accord, mais alors donc ça c'est pour votre exemple à vous très concret, mais à l'étranger, d'autres aéroports, est-ce qu'ils sont réceptifs ? Est-ce que...
Alors, beaucoup d'aéroports sont réceptifs. Après, ils n'ont pas forcément la même vision de long terme que celle qu'on vient de développer parce que la sensibilité à la décarbonation n'est pas la même dans d'autres géographies. L'ADP est par exemple très présent en Inde où cette question-là n'est pas très importante dans le débat public, alors que au Chili, où nous sommes également présents avec l'aéroport Santiago du Chili, on a un grand pays de l'hydrogène. Donc, si jamais nous avions ce plateau au Chili, on vous donnera des exemples très précis, quasiment maîtrés des impacts pour l'aéroport Santiago du Chili. Et si on a le même plateau à Delhi, la conversation serait un peu plus théorique.
Ouais.
Donc, notre travail, c'est d'aller convaincre aéroport par aéroport et on le fait en équipe.
Nathalie Stubler, d'un mot chez vous, l'hydrogène, il va arriver où ?
Alors, ce qu'on pense, c'est déjà l'hydrogène, on a absolument besoin pour tout de suite les carburants de synthèse. Parce que toujours, aujourd'hui, ouais. comme je vous l'ai dit, on peut déjà mettre jusqu'à 50% de carburants de synthèse dans les moteurs et les avions d'aujourd'hui. Et ça, c'est clé. C'est clé d'abord parce que ça peut booster le rendement des carburants d'origine végétale, les bio-SAF, comme
ouais.
on dit.
Biocarburants. Hein.
Les biocarburants d'aviation. Et également, ça va également permettre de fabriquer des carburants de synthèse, donc les ISAF, mm-hmm. Et qui sont d'ailleurs dans le mandat de la réglementation européenne à partir de 2030.
Ouais.
Et donc, pour fabriquer ces carburants de synthèse, absolument nécessaire d'hydrogène. Donc ça, il y en a besoin tout de suite pour les carburants de synthèse. Par ailleurs, Safran travaille sur un plan technologique pour la combustion à hydrogène, alors que ce soit de la combustion dans une turbine à gaz ou dans une pile à combustible. Mais là, on est sur une feuille de route technologique à plus long terme. On l'a dit, avec des avions plus courtes de distance. Enfin, ça a été également évoqué tout à l'heure. Et là, c'est une feuille de route technologique qui demande à lever un certain nombre de barrières, d'incertitudes. Et donc là, ça va nous emmener sur un schéma plus long terme.
Des barrières et incertitudes technologiques ?
Oui,
en l'occurrence,
tout à
des
fait.
Innovations qui sont pas
tout
encore
à fait, parce qu'il faut transporter ce carburant dans un avion, ce qui n'est pas encore facile. Mm-hmm. Et puis, effectivement, entre ces deux technologies, combustion directe ou pile à combustible. Donc là-dessus, on a un plan technologique, on a eu des démonstrateurs, on a eu aussi des essais qui ont été faits au début d'année sur le site d'Ariane Group avec un modèle réduit de plus faible puissance. Donc là-dessus, on a une feuille technologique à plus long terme.
Philippe Bouclier, on parle de l'hydrogène dans l'aérien, évidemment, mais il y a l'hydrogène tout court. Alors, on en parle, mais je trouve qu'on en entend moins parler ces derniers temps. On en a beaucoup entendu parler post-Covid. Dans France Relance, dans France 2030, les ministres avaient présenté une feuille de route, un programme très ambitieux, 7 milliards d'euros d'investissement, si je ne dis pas de bêtises. Et là, j'ai l'impression qu'on en entend moins parler. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que l'hydrogène est toujours, pardon pour l'expression, dans les tuyaux ? Ou est-ce qu'il y a des doutes en ce moment des pouvoirs publics ?
Je vous rassure, l'hydrogène est toujours dans les tuyaux. Et on passe du PowerPoint au power plant. C'est-à-dire qu'on est rentré dans ce que les industriels disent la veille de la mort. C'est-à-dire... on met en place les premiers les pilotes, les premiers démonstrateurs, quelques ordres de grandeur. L'objectif, c'est avoir 6500 mégawatts d'électrolyse à l'horizon 2030.
Ouais.
C'est très très ambitieux. C'est,
okay. On en est où aujourd'hui ?
Certains disent un objectif aspirationnel.
Okay.
Actuellement, on a 30 mégawatts.
Ouais.
Et
il va falloir faire 200
30 mégawatts
plus,
qui okay. tournent, qui sont en exploitation, avec des électrolyseurs de quelques mégawatts, 1, 2, maximum 5 mégawatts. Il y a 300 mégawatts de décidés, avec un gros projet d'Air Liquide et de Siemens en Normandie de 200 mégawatts.
Mm-hmm.
Donc 300 mégawatts, on est encore loin des 6500 mégawatts.
Ouais.
Mais donc il faut accélérer, il faut avancer. Donc ça exige que tout le monde se mobilise, mais ça, du côté des porteurs de projets, je dirais c'est fait.
D'accord.
On a recensé 250 projets. Si on réalisait ces 250 projets, ouais. on va largement au-delà des 6500 mégawatts. Mais
qu'est-ce qui bloque alors ? Enfin, qu'est-ce qui fait que ça traîne ?
Il y a deux choses. C'est il y a évidemment, Edouard parlait du foncier, donc ça, c'est de façon pratique,
c'est très
quand
important.
On est déjà au pied du mur, de trouver un terrain.
Ouais.
Mais plus en amont, les financements.
Ah.
Ce sont des technologies émergentes, il faut un soutien public. Sans soutien public, c'est ce qu'on a vu dans les renouvelables, il faut
ouais.
L'équivalent. Donc un soutien public. Soutien
mais
qui
normalement, il y a 7 milliards de soutien public.
C'est même plus que 7 milliards, hein. C'est 7 milliards d'euros qui
est annoncé. Donc l'argent, il coule à flot en théorie.
Oui, enfin, sauf qu'il faut ça, c'est des promesses. Ouais. Et je ne vais pas vous dire, les promesses n'engagent que ce... Bon, OK.
OK.
C'est-à-dire que c'est même plus que 7 milliards. C'était 7 milliards d'euros lors du lancement de la stratégie en septembre 2020.
Ouais.
Et à cela, France 2030 a rajouté 1 milliard 9.
Ouais.
Plus, si vous rajoutez quelques budgets annexes, c'est dans l'aviation notamment, vous avez de l'ordre de 10 milliards. Mais il faut.
Et donc c'est quoi ? C'est que les crédits sont gelés.
Voilà, il faut les dégager. C'est-à-dire
ouais,
que
d'accord.
déjà beaucoup a été fait avec sous l'impulsion de l'Europe également. L'Europe a beaucoup contribué et des gigafactories sont réalisées ou vont être inaugurées. Tout à l'heure, on avait OP Mobility qui au nord de dans l'Oise va mm-hmm. inaugurer une usine en 2025. D'autres usines ont déjà été inaugurées, donc des gigafactories de matériel, des piles à combustible, des électrolyseurs, des réservoirs. Donc ça c'est fait. Je dirais, côté amont, on a bien progressé. Mm-hmm. Mais maintenant, il faut un marché. Il faut que ces produits trouvent un marché. Okay. Et pour ça, ces produits sont encore trop chers. Donc ça veut dire qu'il faut un soutien à la mobilité routière, donc des VUL. On a quand même la chance en France d'avoir deux sociétés. Je pense à Stellantis, je pense à Renault via sa filiale Aivia avec Plug Power, qui font des véhicules utilitaires légers à hydrogène. Le Master pour Renault et le Jumpy, le Expert ou le Vivaro pour Stellantis. Donc on a ça, mais ces véhicules sont encore trop chers. Donc il faut une certaine aide pour que on atteigne une masse critique et à partir de là ça volera tout seul, disons on en retiendra on si j'ose dire on rejoindra le prix de du véhicule diesel. Donc une aide à la fois financière
oui puis un passage
produire
à l'échelle
produire de l'hydrogène l'hydrogène propre et donc qu'il soit fait à partir d'électricité renouvelable, qu'il soit fait à partir d'électricité nucléaire et encore trop cher. Donc il faut également combler le gap, enfin l'écart qui peut exister entre cet hydrogène propre et l'hydrogène que l'on utilise actuellement.
Ouais.
Donc tout ça demande des moyens. Donc actuellement sur les 10 milliards, il y a à peu près de l'ordre de 3 milliards qui sont engagés.
Ok.
Et là, nous militons pour qu'il y ait le lancement d'un appel d'offres pour des projets de taille intermédiaire, de l'ordre de 20, je parlais tout à l'heure, ce qui existe, c'est 1, 2, 5 mégawatts, qu'on lance maintenant une gamme de projets de l'ordre de 20, 30, 50, 100, 100 mégawatts, avant de passer dans des grands projets comme il sera nécessaire sur l'aéroport de Paris ou dans, chez les industriels, de centaines de mégawatts.
Ouais.
Donc là, il y a un palier intermédiaire. Et là, 4 milliards ont été promis. Je vous donne rendez-vous au débat parlementaire, savoir ce qui va sortir de la molinette du projet de loi de finances
de l'Assemblée. Vous aussi, vous regardez tout ça de très près. Il ne nous reste plus que quelques minutes déjà. On a beaucoup parlé dans cette émission, bien évidemment, de la technologie pour décarboner. Est-ce que ça passe aussi, la décarbonation, par de la sobriété, voire par de la décroissance, moins volée, puisque c'est évidemment le débat qui revient de manière récurrente. Est-ce que pour vous, il faut moins voler pour moins émettre? Ou est-ce qu'on peut se dire, raisonnablement, qu'à terme, tous les vols seront zéro émission et que ce n'est pas le sujet?
Alors, Augustin de Romanet l'avait dit l'année dernière, pour ADP, la meilleure utilisation de l'avion, c'est celle qu'on promeut. Donc la meilleure utilisation, c'est que s'il est possible de ne pas utiliser l'avion, par exemple sur des trajets domestiques, et s'il est possible d'avoir une alternative au vol court-courrier pour pouvoir alimenter le hub, et notamment le hub de notre premier client qui est Air France KLM, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour la planète, c'est une bonne nouvelle pour le gestionnaire d'infrastructure, et ça correspond à un besoin de société. Donc la première réponse, elle est si c'est possible d'avoir cette alternative, oui, on y travaille. On peut l'évoquer, l'intermodalité faire air. L'infrastructure sera là, reste à améliorer le travail entre les transporteurs. En revanche, sur le long courrier, sur un certain nombre de segments, l'avion ne sera pas remplacé et notre métier à nous, c'est de rendre possible le fait de pouvoir continuer à voler. On est fiers de ce métier. On pense que cette industrie a des choses à apporter dans le monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous allons. Et notre responsabilité est de rendre possible le fait que vous et nos enfants puissions continuer à voler.
Ouais.
Et le faire de manière décarbonée. Et du côté des aéroports, on est là pour faire notre travail sur le sol, pour permettre aux avionneurs et aux motoristes de réaliser les avancées technologiques qui sont dans la feuille de route d'un secteur. Mmh. On a un secteur qui s'est résolument engagé dans la voie de la décarbonation parce que nous aimons notre métier et que nous continuons à le faire.
Nathalie Stubler, comment est-ce que vous regardez ça chez Safran?
Alors effectivement,
est-ce qu'il faut réduire les volumes?
En fait, les croissances du transport aérien ne sont pas les mêmes partout dans le monde.
En moyenne, la croissance devrait... Enfin, on devrait avoir deux fois plus de trafic dans 20 ans.
Oui, mais
c'est la moyenne. Hein. Après,
on le voit, il y a effectivement des pays qui accèdent effectivement à un transport aérien plus fréquent, qu'il y avait moins accès avant. Donc on voit qu'il y a des zones de croissance qui sont assez différentes.
Très différentes.
Entre l'Europe, l'Asie, certaines zones d'Asie, les États-Unis. Et donc, sans reprendre ce que disait juste à l'instant Edouard, c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte que cette croissance soit durable. Mmh. Et là-dessus, on s'est engagé, Safran, comme d'autres, constructeurs aéronautiques, dans l'ambition d'être net zéro, donc zéro émission nette, à l'horizon 2050.
Okay.
C'est ambitieux, c'est difficile, mais c'est vraiment aussi notre responsabilité de s'engager pour que ce transport aérien soit toujours vertueux à cet horizon, effectivement, et ça nécessite le travail de toutes les parties.
Ouais, c'est ambitieux et ça vous coûte combien à l'un et à l'autre, par exemple, tous ces investissements dans la transition climatique, par exemple chez Safran, ça représente combien?
Alors là-dessus, on a quelques chiffres qui sont accessibles. C'est-à-dire, par exemple, notre recherche et technologie qui est autofinancée, plusieurs centaines de millions d'euros. C'est 75% de notre recherche et technologie autofinancée doit être dédiée à réduire notre empreinte environnementale. Mmh. On fait certifier ces chiffres chaque année. C'est un effort important. Et après, il y a tout ce qui est développement. Là, c'est plutôt des milliards d'euros pour les futures motorisations.
Oui, oui.
Et elles doivent réduire les émissions de CO2.
Et vous, chez ADP, ce sera le mot de la fin pour vous?
Et aujourd'hui, on a 15% de nos investissements qui sont uniquement dédiés à cette feuille de route de décarbonation.
Ouais.
Et dans les 85 qui restent, vous en avez évidemment une très grande part.
Et les 15%,
on donne 800 millions d'euros. On investit 800 millions d'euros à Paris en ce moment. On investira 1 milliard à 1 milliard 2 dans les 5 prochaines années par an. Rien qu'à Paris.
Ouais. Puisque vous avez 26 aéroports, hein, même dans le monde. Bon. Ça nous donne une idée des investissements et de l'aspect financier aussi, évidemment, de cette décarbonation de votre secteur. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. Le temps passe vite. Edward Ockwright, directeur général exécutif du groupe ADP. Nathalie Stubler, directrice du développement durable de Safran. Et Philippe Boucli, président de France Hydrogène. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités dans BFM Climat. C'est déjà la fin de cette émission ici, donc depuis les rencontres de Roissy-Meaux Aéropole. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de BFM Climat. Et d'ici là, évidemment, on garde contact sur notre application, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux et en podcast. Vous pouvez nous trouver partout. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.